l'actualité des idées dans la deuxième partie de cette grande table avec le primatologue et ethnologue néerlandais Frans de Waal ce midi, professeur de psychologie à l'université Emory à Atlanta et directeur du Living Links Center au Yerkes National Primates Research Center, auteur précédemment de Le bonobo, Dieu et nous et de L'âge de l'empathie, leçon avec un S de nature pour une société plus apaisée, deux ouvrages déjà parus aux éditions Les Liens qui Libèrent. Il nous revient donc en cette rentrée avec Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux, un titre clin d'œil, un titre à double sens qui appelle à l'ouverture d'esprit. Qu'est-ce qui nous différencie, les animaux et nous, nous et eux? Le QI d'un chimpanzé peut-il être supérieur à celui de Sharon Stone, l'actrice de Basic Instinct, la plus intelligente d'Hollywood? Pourquoi nous obstinons-nous à sous-estimer l'intelligence animale? Dans ce livre Arche de Noé, il y a des singes, des éléphants, des dauphins, des orques, des phoques, des chiens, des loups, des oiseaux, des pieuvres et même un homme, lui, Frans de Waal. Faire reconnaître ses résultats n'a pas été une sinécure, un livre de souvenirs mais surtout un ouvrage épistémologique qui relate l'épopée de la cognition évolutive dans le champ de la primatologie, de la biologie animale et des sciences en général. Bonjour Frans de Waal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. À partir d'expériences concrètes, vous développez l'idée d'une continuité des processus mentaux communs entre hommes et animaux, tout en rappelant la particularité de chacun et notamment de l'esprit humain. Sans partir d'une approche centrée sur la comparaison avec l'homme, l'expérimentateur ne doit pas être le modèle, écrivez-vous, mais en testant des grands singes avec des grands singes, des loups avec des loups et des enfants avec des humains adultes. Il n'y a que comme cela, selon vous, que l'on peut évaluer la cognition sociale dans un contexte évolutif original. La cognition étant la capacité à s'adapter à l'environnement avec flexibilité et à répondre aux problèmes que cet environnement pose. Voilà, en quelques lignes. Mais la phrase forte de ce livre, c'est d'abord, Frans de Waal, cessons de faire de l'homme la mesure de toute chose. Pourquoi ?
Oui, on a la tendance, les choses que nous on fait très bien, comme le langage ou les technologies, utiliser des outils, c'est ça qu'on utilise pour juger les animaux. Mais des choses que nous, on fait pas, par exemple l'écolocation de chauves-souris, de dauphins, on n'est pas particulièrement intéressé dans ça. Parce que c'est très complexe, en fait, comme capacité. Nous, on ne peut pas faire ça. C'est extrêmement complexe, mais on ignore ça parce que ce n'est pas une chose que l'homme fait. Alors, on mesure les animaux avec nos capacités, en fait. Et on est très content. Par exemple, les corbeaux utilisent des outils. On est très impressionné par ça. Mais il y a beaucoup d'autres sortes de cognition dans le monde. Et la cognition humaine est très primate, je dirais, comme les autres primates. Et c'est ça qu'on utilise comme mesure.
C'est pas vraiment plus objectif, parce que de toute façon, c'est l'homme qui décide à quoi on mesure les choses, même s'il ne se prend pas lui-même comme mesure de toute chose. Est-ce que vous, simplement, vous ne déviez pas le problème pour avoir une autre position plutôt que d'avoir une position supposément plus objective?
Non, cette position, c'est depuis 25 ans, on est en train de chercher de regarder l'intelligence d'animaux plutôt de leur perspective. Au lieu de notre perspective, on utilise. Et si on veut juger le poulpe ou l'éléphant, il faut connaître sa perception et sa monde et comment il survit et qu'est-ce qu'il utilise. Et par exemple, on ne peut pas comprendre un chien si on ne comprend pas l'olfaction et c'est beaucoup mieux que le nôtre. Alors, il faut se mettre dans la place des animaux et c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment et c'est pour ça qu'il y a chaque semaine il y a une autre découverte parce qu'on a complètement changé la façon d'étudier les animaux.
Et c'est ce qui a bouleversé effectivement ce champ scientifique, c'est ce que vous racontez. Vous appelez d'abord donc à sortir de l'échelle unique, façon Aristote. En gros, il n'y aurait pas Dieu puis nous tout en haut de l'échelle et en bas les animaux avec les mollusques en bas de l'échelle. Si on ne se contente pas du coup d'étudier les animaux à l'aune de nos critères humains, à partir de quoi, de quels critères faut-il travailler, dans quel environnement? Vous le dites, il faut se mettre à leur place, mais quelle est leur place?
Oui, c'est aussi la façon de tester. Vous dites au début que, par exemple, les expériences qu'on fait avec des grands singes, il faut faire grands singes avec chimpanzés avec chimpanzés. Si, par exemple, on fait des études des imitations, les gens, ils ont fait ça, ils montrent quelque chose à un grand singe, ils montrent comment ouvrir une boîte, ou je sais pas quoi, ils donnent la boîte au grand singe et il fait rien avec. Et alors ils ont concludé que les chimpanzés, les orang-outans sont pas très bien à imitation. Quand nous on a fait ces expériences-là avec, pas avec l'homme, mais avec chimpanzé et chimpanzé, où il y a un chimpanzé qui montre à l'autre comment faire quelque chose, ça marche très bien. Ils sont très bien imités l'un avec l'autre, qui est la seule chose qui est importante dans leur vie.
Comment vous l'expliquez, ça, cette différence? Comment vous l'expliquez?
Parce qu'ils sont beaucoup, ils identifient beaucoup plus facilement avec un autre chimpanzé qu'avec nous. Nous, on est une espèce différente. Ils n'ont pas une connexion nécessairement.
Ils nous voient plus différents que vous, les voyez différents, vous, finalement.
Oui. Alors, si on veut tester, c'est comme ça. On teste un chien, c'est un chien avec un chien, un loup avec un loup, un chimpanzé avec un chimpanzé. C'est comme ça qu'on teste les capacités sociales.
C'est ce que vous appelez aussi cette écologie spécifique dans laquelle il faut pouvoir les replacer. Franz De Waal est donc notre invité jusqu'à 13h30, auteur en cette rentrée de « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ?», un ouvrage qui vient de paraître aux éditions « Les liens qui libèrent ».
Ce que je connais de l'homme a été écrit depuis fort longtemps et par le plus grand sage de ce monde, notre législateur bien-aimé. Cornelius, venez ici. Fouillez dans ma poche et lisez-lui le 29e rouleau, verset 12.
Prends garde à la bête humaine, car elle est dans la main du diable. Seul de tous les primates créés par Dieu, il tue par plaisir, concupiscence ou avidité.
Nous avons établi notre nouvelle base dans une superbe zone de gorilles. Végétation dense, pentes abruptes. J'ai des contacts quasi quotidiens.
À ce rythme, les braconniers auront décimé l'espèce d'ici à 5 ans. D'où l'urgence d'amasser sur eux le plus d'informations possibles qui nous seront
très précieuses. Depuis quelque temps, j'étudie plus spécifiquement un groupe que j'appellerai le groupe 4. Je me suis progressivement approché des femelles et des jeunes, mais le mâle dominant à dos argenté reste à l'écart. Il garde ses distances, mais observe tout très minutieusement. Je m'approche d'eux à 10 ou 20 mètres, sans qu'ils paraissent avoir peur. Au fil des jours, j'espère m'en approcher assez pour établir un véritable contact.
Franz De Waal, vous aurez reconnu la musique de l'Odyssée de l'espace, quelques extraits peut-être de La planète des singes et de Gorille dans la brume. Voilà, vous qui êtes le père adoptif de ces espèces que vous aimez beaucoup et que vous étudiez depuis tant d'années. Pouvez-vous nous rappeler cette scène justement où le singe découvre l'outil et se sert de cet outil pour... pour faire à manger?
Oui, en fait, utiliser des outils, ça c'est une chose, mais fabriquer des outils, pendant longtemps, c'était considéré comme la marque d'humain. C'est seulement l'homme qui peut fabriquer des outils. Maintenant, bien sûr, on sait que les grands singes font ça, en fait, les corbeaux, ils font ça. Et maintenant, les gens disent, nous, on est la seule espèce qui fabrique des outils pour fabriquer des outils. Et c'est comme ça qu'on avance, en fait. Et il y a toujours cette tendance dans notre espèce d'essayer d'être unique. On est le seul qui fait ça. On est le seul qui fait ça. Et cette obsession...
C'est en ça qu'on est unique.
Oui, cette obsession est peut-être unique. C'est ça, oui.
Franz De Waal, l'intelligence animale, c'est un tabou que vous avez le sentiment de lever aujourd'hui avec cet essai. L'intelligence animale.
Oui, l'intelligence animale est un tabou pendant le siècle dernier. On essayait de mettre tout ce que les animaux font dans deux boîtes, soit c'est un instinct, soit c'est un apprentissage très simple, comme les rats ou les pigeons, je ne sais pas quoi. Et c'est seulement dans les derniers 25 ans que les jeunes scientifiques, ils ont commencé de regarder dehors de ces deux boîtes-là et de proposer, par exemple, que les animaux peuvent avoir des concepts, ils peuvent planifier, ils peuvent avoir une théorie d'esprit, ils peuvent fabriquer des outils, toutes sortes de choses. Et chaque semaine, maintenant, il y a des découvertes comme ça.
Qu'est-ce qui fait qu'avant, on ne voulait pas s'intéresser à cette question? Pourquoi, en quoi c'était tabou?
Oui, c'est ça une question que j'ai. Je ne sais pas pourquoi. C'est une vue très mécanistique. C'est un peu cartésien. Ça. Il vient de France, non, Descartes. Mais il vivait à Amsterdam.
Même c'est Aristote que vous voulez déboulonner. Alors, ça remonte très loin.
Oui, ça remonte très loin. C'est pas seulement Descartes qui était comme ça. Mais oui, ça remonte très loin. Et on avait cette tendance de mettre l'homme à un autre endroit que les animaux. Maintenant, bien sûr, moi, je suis biologiste et le biologue et les neuroscientifiques. Nous, on trouve que l'homme est un animal. On ne fait même pas la distinction.
Ça, c'est votre thèse. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment, concrètement, vous travaillez, quelles sont les expériences que vous conduisez, quel est votre programme de recherche pour précisément mettre en lumière cette homogénéité, on va dire, entre les animaux et les
hommes. Oui, mon propre projet, c'est, j'ai environ 20 personnes qui travaillent surtout les grands singes et aussi les singes capucins. Et je travaille à un très grand centre primatologique à Atlanta, Georgia. Et on fait des expériences, par exemple, avec les chimpanzés. Ils vivent dehors, ils vivent dans l'herbe, dehors. Mais on les appelle dans un petit bâtiment et s'ils veulent venir, ils viennent. S'ils ne veulent pas venir, je ne sais pas, je ne peux pas leur forcer. Alors, les appelle et ils viennent dans une petite chambre où on donne, par exemple, un écran d'ordinateur. Ils adorent les ordinateurs. On n'a même pas besoin de donner des récompenses pour ce qu'ils font parce qu'ils, comme les enfants, ils adorent les ordinateurs. Ou on fait une expérience où ils peuvent coopérer et partager la nourriture, des choses comme ça. Et on fait ça pendant peut-être une demi-heure ou une heure, et après on le renvoie vers le groupe.
C'est quoi l'idée qui préside à ces expériences finalement ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous cherchez à montrer précisément ?
Dans mon propre travail, c'est toujours des choses sociales. Moi, je ne travaille pas sur des choses comme des outils ou des numéros ou des mémoires. C'est des choses sociales. Comment ils résistent l'un vers l'autre ? Je suis très intéressé dans l'empathie, par exemple. Est-ce qu'ils sont sensibles aux émotions des autres ?
Comment vous faites, par exemple, pour montrer ça, l'empathie ?
Oui, ça.
Expérimentalement ?
Oui.
Démonstration de l'empathie.
Oui, c'est, par exemple, le bâillement est contagieux. Si moi je commence à bâiller, si vous commencez,
ouais, peut-être, c'est possible,
si vous êtes
j'essaie
empathique.
J'essaie de me
retenir. Si vous êtes empathique, parce que l'empathie est liée avec ça. Et c'est comme ça qu'on peut montrer le chimpanzé des petites vidéos d'un chimpanzé qui baille. Et on regarde qu'est-ce qu'eux, ils font. Et ce qu'on a trouvé, une des choses qu'on a trouvé, c'est qu'ils sont surtout sensibles au bâillement des chimpanzés qu'ils connaissent. Si c'est un chimpanzé qu'ils connaissent pas, qu'ils ont jamais vu avant, ou un homme, ou un autre animal, comme un chien, je sais pas quoi, ils font rien. Alors, c'est très, l'empathie est très liée au lien social, et c'est pour ça qu'ils sont influencés par ça.
Vous voulez qu'on fasse l'expérience? Je serais heureuse de connaître le degré d'empathie de mon confrère. On tente. Qui entame un bâillement ? France Deval, vous revenez sur l'un de vos précédents ouvrages, La politique du chimpanzé. Et dans cet ouvrage-ci, vous écrivez « Je risquais ma carrière académique naissante en attribuant des manœuvres sociales intelligentes à des animaux. Une insinuation qu'on m'avait appris à éviter à tout prix. » Pourquoi ?
Oui,
où est le risque ? Qu'est-ce qu'il y a de si dangereux à essayer de montrer, à faire ces parallèles ?
Oui, moi j'ai écrit ce livre en 82. Et à l'époque, c'est encore, on parlait pas des émotions, on parle pas de pouvoir ou de dominance comme ça, ou de stratégie. On pouvait parler d'apprentissage très simple ou des instincts, mais d'autres choses, c'était tabou. Et moi, j'ai écrit ce livre en 10 ans, parce que j'étais très jeune et je n'avais pas encore de carrière, alors j'ai rien à perdre. Je vais dire comme c'est, comme je pense que c'est, et en fait, les primatologues étaient très réceptifs. Les autres primatologues, ils ont bien aimé ce livre-là parce que ça décrivait des choses qu'ils connaissaient. Et dehors, la primatologie aussi, les gens étaient fascinés par ce genre de choses. Et maintenant, bien sûr, il y a toutes sortes de recherches sur ce genre de stratégie.
Et les émotions, justement, vous dites que c'est la prochaine étape, qu'il reste encore beaucoup à découvrir dans ce champ-là, comportemental.
Oui, oui. C'est ça la même chose qu'avec les études des humains. Les émotions étaient négligées. On parle toujours de cognition et est-ce qu'on peut calculer ou à quel âge on peut parler et tout ça. Mais les émotions, c'est un peu méprisé en fait chez l'homme. Et il y a beaucoup de scientifiques qui ne voulaient pas travailler là-dessus. Maintenant, il y a tout avec l'homme, bien sûr. L'intelligence émotionnelle est très grande comme sujet maintenant.
Ce que j'aimerais bien comprendre, je ne sais pas vous, Antoine Mercier, mais c'est aussi ce que vous appelez l'intelligence. C'est-à-dire que vous évoquez la coopération, vous évoquez ce que vous appelez la conscience triangulaire des animaux. Est-ce que ces aptitudes sociales sont pour vous des formes d'intelligence ?
Oui, tout ça, c'est lié au résoudre des problèmes dans ton environnement. Et c'est ça que c'est, l'intelligence.
C'est ça l'intelligence.
Le mot cognition, c'est plutôt utilisé pour comment tu manipules l'information que tu reçois. Oui.
Alors, par exemple, sur la résolution des problèmes environnementaux, quelles sont les expériences qui ont été conduites? Comment vous voyez ça? Comment vous le mesurez?
Oui, on peut présenter des situations qui sont nouveaux, qu'il faut résoudre, par exemple, un puzzle box, je sais pas quoi, une boîte
avec, un puzzle,
qui est dur à ouvrir. Et
ils ne font pas le puzzle eux-mêmes, les bonobos, quand même.
C'est nous qui faisons le puzzle pour eux, oui.
D'accord. Mais on a besoin de deux pour ouvrir la boîte.
Oui, mais aussi, on fait de la recherche où on donne ça à un chimpanzé et si lui, c'est la solution, est-ce que l'autre va l'apprendre comme ça? Est-ce que ça facilite apprendre la solution? Oui.
Alors, transmission de savoir, donc.
Oui.
Vous avez défini, du coup, une théorie, développé une théorie dans cet ouvrage que vous appelez la loi des vagues cognitives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste?
Oui, chaque chose qu'on découvre... On découvre presque toujours d'abord chez les grands singes comme les chimpanzés. Et parce que le chimpanzé est très similaire à nous, il a des yeux frontaux, il a des mains et tout ça. Et on présente un problème à un chimpanzé, et si le chimpanzé le résout, on dit alors, c'est peut-être pas seulement l'homme, mais c'est aussi le chimpanzé. Et c'est seulement après ça, souvent dans 5 ans, peut-être 10 ans plus tard, il y a d'autres espèces. Il y a des chiens, il y a des dauphins, il y a des corbeaux, il y a des éléphants qui en fait savent faire la même chose. Et c'est la théorie de la vague. C'est les choses sont toujours plus vieux et plus distribuées dans le monde animal qu'on pense.
Jusqu'au poulpe.
Jusqu'au poulpe, quelquefois. Oui, le poulpe, ils utilisent des outils, par exemple, très simples, mais ils font ça. Ils sont capables de reconnaître des visages des gens, par exemple. Les poulpes sont assez remarquables. Ils ont de très grands cerveaux et ils ont toute une distribution de systèmes nerveux sur leur corps. Oui.
Et vous racontez cette transmission aussi qui se fait d'année en année. Tout vient de beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer. Comment se passe pour vous aujourd'hui des expériences, voilà, tout simplement, que vous avez pu mener, cet apprentissage social chez les animaux? Est-ce que c'est par mimétisme? Et c'est du mimétisme entre les espèces, entre même espèces? En gros, on apprend à être un loup au sein d'une même meute? C'est comme ça que ça se passe?
C'est intéressant que c'est très lié au corps. Tout ça, en fait, c'est plus lié au corps qu'on pense. Il y a le neurone miroir, vous connaissez sans doute, qui font qu'on comprend les actes moteurs d'un autre individu. En fait, par exemple, si moi j'ai une expression triste, vous allez avoir une expression triste. Ça, c'est l'empathie par processus moteur. Et on trouve de plus en plus que la capacité qu'on trouve chez les animaux, mais aussi chez les gens, ils sont plus liés au corps qu'on pensait. Et l'imitation, c'est un bon exemple de ça. Par exemple, si on montre un chimpanzé comment ouvrir une certaine boîte, on le montre mécaniquement, mais sans main et sans personne et sans rien, il ne va pas l'imiter. Si un autre chimpanzé montre avec des mouvements de corps comment l'ouvrir, il va l'imiter. Alors, ce n'est pas seulement le mouvement du boîte qui est important, le mouvement mécanique, mais c'est aussi le corps qui est là-dedans.
Alors ça, on l'a déjà découvert depuis longtemps avec Tarzan ou avec Mowgli dans le livre de la jungle.
Ouais.
C'est-à-dire que vous mettez un homme, par exemple, avec des singes, il va tenter de faire comme eux et de grandir comme eux. Mais ouais. Ce que vous soulignez vraiment aussi, c'est que dans cet apprentissage social, notamment des singes, des primates, ça prend racine dans un désir d'appartenance.
Mmh. Oui, il y a une identification. Et c'est pour ça... aussi chez les chimpanzés que les jeunes femelles ils imitent la mère, les jeunes mâles ils imitent les grands mâles alpha.
Il n'y a pas la théorie du genre là, ça marche pas.
non, mais par exemple si le grand mâle alpha il fait une performance qui est intimidant et tout le monde est très impressionné, souvent 10 minutes plus tard, un quart d'heure plus tard, les jeunes mâles ils vont faire quelque chose aussi pour montrer qu'ils peuvent faire le même genre de choses.
Et les femelles?
Vous dites ça à voix basse.
Les femelles ne font pas ça. Les femelles regardent la mère. La mère est souvent très bien à casser des noix avec des pierres et des choses comme ça. Et ils regardent ça et ils imitent ça très bien. Oui. Alors les femelles sont plutôt à imiter la mère, oui.
Ne me regardez pas, Antoine, merci. Dans le singe en nous, un précédent ouvrage de vous, France Deval, paru chez Fayard, c'était en 2006. Vous compariez, entre autres, les chimpanzés avec les bonobos, montriez des caractéristiques particulières chez ces différents primates. Et vous faisiez aussi la comparaison, sans analogie, mais de l'homme avec le singe. Et vous estimez que nous, on est une forme de singe bipolaire, qu'on est un peu entre ces deux espèces, c'est-à-dire mi-querelleur, mi-pacificateur dans nos comportements. Ouais. Comme quoi, il y a quand même aussi des parallèles à dresser entre ce « eux » et « nous », sans vouloir en permanence se comparer. On a des choses à apprendre des animaux.
Ouais. Oui, les gens, ils blaguent quelquefois que les chimpanzés sont plus à droite et les bonobos plus à gauche, parce que les bonobos sont plutôt des hippies qui sont contents et qui n'ont pas beaucoup de violence. Et on trouve aussi chez les gens, on trouve des gens qui veulent être des bonobos. Il y a d'autres gens qui se comportent plutôt comme des chimpanzés. Et parce que les chimpanzés sont très territoriaux et ils peuvent être très agressifs l'un avec l'autre, que le bonobo n'a pas du tout.
Mais donc, on peut penser la relation homme-animal de façon analogique. On a des choses à apprendre de nous-mêmes.
Oui, je crois qu'on a les deux côtés. On a cette côté empathique et coopératif. Et on a cette côté agressif et violent et territorial. Et on peut trouver des parallèles comme ça partout dans le monde animal.
On peut apprendre des animaux, mais est-ce que les animaux peuvent apprendre de nous?
Ils pourraient, s'ils étaient intéressés, oui.
Ils ne le sont pas majoritairement.
Il faudrait faire des écoles spéciales.
Ouais, ouais.
France Culture, il est 13h16.
France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
Avec Antoine Mercier jusqu'à 13h30 et notre invité France Deval, le primatologue néerlandais, enfin américain aussi. Et puis vous vivez là-bas, vous enseignez là-bas dans l'âge de l'empathie, leçon de nature pour une société plus apaisée. France Deval, à travers le phénomène de réconciliation, vous démontriez déjà que l'instinct de compassion, l'empathie, la coopération ne sont pas exclusivement réservés à l'homme et donc à la femme. Pour autant, France Deval, les animaux ont-ils pour vous aujourd'hui le même sens moral que nous?
Pas exactement pareil, parce que je ne crois pas qu'ils veulent justifier ou argumenter certaines positions. Ils ne font pas ce genre de choses. Mais la base de moralité, je crois que c'est l'empathie, c'est qu'on est intéressé dans les autres et qu'on est influencé par les émotions et les situations des autres. Et on ne peut pas, moi je ne peux pas m'imaginer une moralité humaine sans cette capacité-là, qui est au cœur. Récemment, j'ai vu le Dalai Lama, pour le Dalai Lama, la compassion est au cœur. Elle, en fait, le parti le plus important de moralité. Moi, je crois que la moralité humaine a développé des capacités comme ça, des capacités primates, de psychologie primate. Et on a ajouté certaines choses, mais c'est pas autant qu'on pense.
C'est intéressant. Moi, j'aimerais bien imaginer un dialogue entre vous et le Dalai Lama. Vous vous êtes dit quoi? Pourquoi vous êtes rencontrés?
J'expliquais l'empathie chez les animaux et lui, il trouve ça très intéressant. Il n'est pas contre il y a certaines religions qui n'aiment pas les sciences, mais lui, il adore les sciences.
Et ça, c'est un dialogue que vous avez avec le pape, que vous aurez prochainement, vous pourriez
le
avoir
pape,
avec lui?
J'ai pas encore rencontré le pape, mais peut-être ça va venir, je sais pas.
Que le chien soit le mieux à même d'être le chien, que le singe soit le plus doué pour être le singe, etc. Et le poulpe, on veut bien l'admettre, mais qu'est-ce qui fait que l'homme ne donnerait plus le « là » à un moment donné? Est-ce qu'on peut imaginer cette situation où l'homme ne donne plus le « là » d'une façon ou d'une autre? C'est ça la question de fond, de la centralité de l'espèce humaine.
Que l'homme fait quoi
C'est-à-dire que vous nous dites effectivement que certaines espèces ont davantage de capacités que nous pour faire telle et telle chose. Je pense que tout le monde en convient. La question est de savoir qu'aujourd'hui, dans la société homme-animaux, c'est l'homme qui donne le là, c'est-à-dire qui dirige, qui maîtrise la situation, qui contrôle, enfin bon, qui a une position de domination par rapport à la fois aux espèces animales.
C'est nous le chef.
Donc, est-ce que cette situation-là peut changer fondamentalement?
Est-ce qu'on a vraiment le chef? Par exemple, le Zika, c'est une petite, moustique. Un petit moustique qui dirige beaucoup de choses maintenant. Et il y a fourmis, il y a plus de fourmis sur la Terre que d'hommes. Et sans fourmis et sans termites, qu'est-ce qu'on ferait? Par exemple, si un arbre tombe, il resterait là tout le temps. Moi, je suis pas sûr. Oui, on est très dominant et c'est malheureusement on est très dominant parce que ça va pas très bien, je trouve, avec la planète. Mais cette idée que on peut faire n'importe quoi et on est complètement le boss de la nature, c'est une illusion.
Mais qu'est-ce que ça changerait dans le monde que si vos thèses étaient par exemple admises globalement, y compris par les institutions politiques, etc. Qu'est-ce que ça changerait dans le monde cette reconnaissance de la fin de la frontière entre les espèces humaines et animales?
Oui, je crois qu'il y a deux choses. D'abord, la conservation des espèces, il faut qu'on travaille un peu plus sur ça, et je crois que cette réalisation de laquelle je parle dans mon livre va aider avec ça. Et c'est aussi la souffrance des animaux, comment on traite les animaux. C'est déjà en train de changer. Il y a des protestes contre le circus, contre le zoo, contre manger de la viande et tout ça. La façon qu'on traite les animaux, ça peut changer, influencé par ce genre de recherche.
Et il y aura une déclaration des droits des animaux?
Oui, là, moi, je suis pas radical du tout dans ce genre de choses, mais je trouve que les animaux, surtout les animaux dans l'industrie agriculturelle, il y a beaucoup de possibilités d'améliorer leur situation.
Donc, ça changerait en tout cas pas pour vous profondément l'ordre du monde?
Dans un sens, oui, qu'on a plus d'obligations et qu'on a plus considéré avec comment ça va avec la planète, oui.
C'est d'ailleurs une question qu'on se pose assez régulièrement, c'est la question du statut juridique de l'animal. En France, les animaux sont toujours traités juridiquement comme des biens et non pas comme des personnes. Vous, sans aller jusqu'à une déclaration des droits de l'animal, vous seriez pour un nouveau statut juridique de l'animal?
Oui, moi je suis pas juriste, moi je suis biologiste. Moi je sais pas comment faire ça et ce genre de langue, c'est pas ma langue. Mais je trouve qu'on a des obligations, les animaux qu'on a dans notre soin, de les traiter mieux qu'on fait en ce moment.
Vous êtes, pardon Antoine?
Non, je voudrais juste une question peut-être sur le temps, parce que vous y insistez un peu vers la fin. La conscience du temps.
Oui, oui.
Est-ce que là on n'est pas à un moment donné où malgré tout, on fait une différence entre les deux?
Ben, c'est tellement intéressant. On a toujours pensé que les animaux, ils vivent dans le présent. Et nous, on n'est pas comme ça.
C'est-à-dire qu'il y a une finalité, finalement.
Oui, mais...
Le présent soit suivi d'un futur, en principe.
Oui, mais les animaux, ils ont fait de plus en plus de recherches sur le planifié. Par exemple, les chimpanzés dans la nature, ils collectionnent des outils qu'ils vont utiliser 3 heures plus tard. Alors, ça veut dire qu'ils ont déjà collectionné ça en savant qu'ils allaient faire des choses. Et on fait des expériences comme ça. En fait, on peut donner par exemple un orang-outan un choix entre deux outils. Il y a un qui est utilisé, qui peut utiliser tout de suite pour avoir une petite récompense. Il y a un autre qu'il faut qu'il garde 10 heures et 10 heures plus tard, il peut avoir beaucoup plus grande récompense. Alors, laquelle il prend celui-ci et
il est capable d'attendre.
Il est capable d'attendre 10 heures et il garde cet outil pour avoir la meilleure récompense.
Donc, vous avez réponse à tout. Il n'y a pas une question à laquelle vous direz oui, là, il y a une différence qu'on ne peut pas réduire.
Moi, je dirais le langage, c'est peut-être la plus grande différence. Mais pour le reste, il n'y a pas. Moi, je vois la cognition et l'intelligence humaine comme une variation sur l'intelligence animale, oui.
Le langage, dans le sens où vous dites que c'est pas à travers le langage que les animaux ont le plus à nous dire, c'est cette idée-là? Ou que le langage est plus développé chez les hommes?
Le langage est plus. Oui, le langage symbolique. Ça, c'est un truc humain, oui.
Mais vous actez aussi dans cet essai votre méfiance envers le langage. Donc, ça réduit d'autant cette réserve que vous apportez à Antoine Mercier, puisque vous expliquez que votre méfiance envers le langage est plus profonde encore que ce qu'on peut imaginer, parce que vous n'êtes même pas convaincu, chez nous les hommes, de son rôle dans le processus de la pensée.
Oui, mais il y a tant de choses qu'on a pensé qu'on a besoin de langage pour résoudre ça. Il y a tant de choses comme par exemple les mémoires, ou planifier, ou utiliser des outils complexes. Et maintenant, on sait qu'il y a beaucoup d'animaux qui peuvent faire ça, ils font ça sans langage. Alors, le langage joue un rôle pour la communication, mais pas pour la pensée, forcément.
Non, langage symbolique, c'est deux mots forts, et ce sont deux mots, finalement, dont on dit qu'ils évitent aussi la violence directe entre les hommes. Est-ce que vous ne pensez pas que ça joue ce rôle aussi, même s'il y a évidemment beaucoup de violence chez les hommes, mais est-ce que ça ne joue pas un rôle civilisateur de dire on est capable de parler plutôt que de tout de suite se taper dessus, et on est capable de créer des valeurs symboliques qui peuvent aussi créer un lien au-dessus de la relation interpersonnelle.
Mais ça, c'est une vue très optimiste de langage, parce que je crois que le langage est aussi utilisé pour diviser les gens. Et par exemple, les religions, les langages qui divisent les gens. Non, je crois que le langage n'a rien à faire avec ça. Ça aide pas forcément de résoudre les conflits. Moi, j'ai fait toute ma vie des études de résoudre les conflits. Et les animaux sont très bien capables de ça, sans langage.
Quand même, on a tendance à penser, quand on est en conflit avec quelqu'un, si on arrive à lui parler, c'est déjà un bon
oui,
signe, non?
C'est un geste, oui. Ouais. C'est un geste comme l'épouillage ou embrasser.
On pourrait l'épouiller à la place, ça pourrait marcher mieux.
On va aller très loin. Un dernier mot sur la dimension aussi psychologique de ces comportements chez les animaux que vous avez pas mal étudié, parce que vous êtes biologiste, vous êtes ethnologue, primatologue, mais vous êtes aussi psychologue. Quelle place donner du coup à la dimension psychologique dans cet apprentissage social, dans ces comportements des animaux? Vous racontez notamment que la sexualité, par exemple, a évolué avec les besoins de la reproduction, mais que la motivation sexuelle n'est pas liée à cette fonction de reproduction.
Oui, ça c'est intéressant. Les gens confondent toujours ça. La raison pour laquelle quelque chose a évolué, c'est pas forcément la raison qu'on utilise pour le faire dans la vie de chaque jour. Et la sexualité, c'est un bon exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Par exemple, l'altruisme. Il y a des animaux qui s'aident entre eux. Il y a des hommes qui s'aident entre eux. Et on sait que cette capacité a évolué dans un contexte où ça c'était avantageux. Alors c'était dans un sens, c'était pour soi-même qu'on faisait ça, mais la motivation peut être complètement indépendante des raisons pourquoi c'était évolué. Et ça, c'est une discussion très complexe que les biologistes, ils ont constamment, et dans le grand public, c'est pas toujours compris qu'il y a une séparation entre les deux.
Et les animaux, est-ce qu'ils ont aussi une conscience d'eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont une conscience de soi comme nous, on peut l'avoir, les éléphants par exemple?
Oui, on fait des expériences avec le miroir pour tester ça. Les enfants, ils peuvent passer les tests de marque avec le miroir à l'âge de 18 mois environ. Et les chimpanzés, les bonobos, les orang-outans. Et récemment, nous, on a fait une recherche sur les éléphants. Les éléphants passent aussi ce test-là.
À quoi on voit qu'ils se reconnaissent, les éléphants?
Oui, on met une croix sur leur tête et on le met devant le miroir. Mais c'est un endroit, la croix est visible avec le miroir, sans pas sans miroir. Et comme ça, on regarde, est-ce qu'ils touchent cette marque-là, oui ou non?
Avec quoi? Avec sa trompe? Non, je crois. Non. Non, on parle des éléphants, là.
Oui, on parle des éléphants, et ils ont des troncs, oui.
Oui, c'est ça.
Ouais. Au final, dans cet ouvrage, Frans de Waal, l'émission touche à sa fin. Pourquoi plaidez-vous? À quoi appelez-vous?
C'est quoi, appelez-vous?
Ah oui, aidez-moi Antoine.
Est-ce que vous avez un appel à lancer? Est-ce que vous avez une suggestion
non, mais
à faire?
En quoi cet ouvrage, qui a un titre quand même, qui interroge et qui est un peu provocateur à votre manière,
sommes-nous
trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux? C'est un plaidoyer pour que... En quoi est-ce un plaidoyer et pourquoi?
Moi, je voudrais bien que dans la vie académique, dans les humanités, comme par exemple la philosophie, l'anthropologie, la sociologie, les académiques, qui commence à comprendre qu'on est des animaux. Il traite l'homme comme complètement séparé de la nature, comme complètement différent des animaux. Moi, je dis souvent, il pense que l'évolution a arrêté ici, à notre coup. Et l'homme est un animal et il faut qu'il se réalise ça et comme ça, leur travail scientifique améliore, je crois.
C'est ce que vous écrivez donc à la fin de ce livre, cette phrase avec laquelle on a commencé. Cessons de faire de l'homme la mesure de toute chose. Évaluons les autres espèces par ce qu'elles sont, pour ce qu'elles sont à elles seules. Et je suis sûre que nous découvrirons ainsi de nombreux puits sans fond, dont certains sont encore inimaginables pour nous. Plaidoyer pour la notion de continuité. Un grand pardon pour mon français, monsieur, qui n'était pas très à la hauteur aujourd'hui, mais grâce à vous,
mon français encore,
était beaucoup mieux.
Moins.
Merci beaucoup, Frans de Waal, d'être passé dans cette émission, venu sur France Culture. Merci, Antoine Mercier. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Clémence Marie, à Claire Maillot, à Inès Magriff et à Farah Kéram, côté fille, à Julien Rosa et Antoine Tricot, côté garçon. Merci à Antoine Perret à la réalisation avec Clément Daté. On se dit à demain.